Vous écoutez, on lit pour vous.
L'égalité homme-femme reste un objectif lointain, regrette la Banque mondiale. Un texte d'Erwan Lucas de l'agence France Presse, paru le 4 mars 2024 dans Le Devoir. L'égalité économique entre les hommes et les femmes reste encore un objectif très lointain, et aucun pays ne peut se targuer d'y être parvenu, même parmi les économies avancées, selon la dernière édition du rapport de la Banque mondiale, BM, sur les femmes, l'entreprise et la loi, WBL. Pour la dernière édition du WBL, la BM a choisi de faire évoluer ses critères, afin de s'intéresser autant aux lois existantes qu'à leur application réelle et à l'avis d'experts sur la réalité au quotidien, une démarche plus large que les versions précédentes qui ne se basaient que sur l'évolution du droit en la matière dans chaque pays. Et cette nouvelle approche dresse un portrait plus négatif que les années précédentes quant à la question de l'égalité économique, puisqu'il vient montrer que les inégalités sont en réalité bien plus prononcées que ce que laissaient envisager les rapports précédents. Pire, alors que d'un point de vue purement juridique, un certain nombre de pays, en particulier parmi les économies avancées, semblaient être proches ou avaient atteint l'égalité, la prise en compte de l'application des lois et de l'avis des experts dresse un portrait plus nuancé, qui montre que même dans ces pays, le chemin est encore long. Ainsi, alors qu'en 2022, avant la prise en compte des nouveaux critères, les femmes disposaient en moyenne de 77 % des droits dont les hommes jouissent dans le monde, avec de fortes disparités géographiques. Le nouveau rapport estime qu'elles ne disposent en réalité que de 64 % des protections juridiques dont disposent les hommes. Aux quatre coins du globe, des lois et des pratiques discriminatoires empêchent les femmes de travailler ou de créer des entreprises, au même titre que les hommes, a regretté le chef économiste de la BM, Indermitt Gill, cité dans le rapport. Parmi les exemples mis en avant, la question de l'égalité en termes de rémunération. La banque souligne que si une législation en ce sens existe dans 98 pays dans le monde, ils ne sont que 35 à avoir mis en place les mesures nécessaires pour s'assurer de la réelle mise en place de cette obligation, soit moins de 20 % des pays dans le monde. Conséquence, la BM estime qu'en moyenne, les femmes gagnent 7,7 $ lorsque les hommes en perçoivent 10. Plus largement, si les femmes disposent bien de 77 % des mêmes droits que les hommes, d'un point de vue législatif, les pays ont mis en place, en moyenne, moins de 40 % des mesures nécessaires à l'application effective de ces droits. Impact économique majeur. Il est plus urgent que jamais d'accélérer les efforts visant à réformer les lois et à adopter des politiques publiques qui permettent aux femmes de travailler ou de créer et développer leur entreprise, a souligné de son côté l'auteur principal du rapport, Tia Trumbick. D'autant qu'il existe des points sur lesquels la quasi-totalité des États de la planète sont particulièrement en retard, selon le rapport. C'est en particulier le cas de deux nouveaux critères pris en compte par la BM. L'existence de services de garde à l'enfant et, plus encore, la sécurité des femmes. Les services de garde à l'enfant sont en effet un élément essentiel afin de permettre aux femmes d'accéder plus facilement au marché du travail ou de créer des entreprises. Et pour cause. En moyenne, les femmes consacrent 2,4 heures de plus que les hommes chaque jour aux tâches ménagères, principalement du fait de la garde des enfants. Mais les législations créant les normes de qualité pour les services n'existent que dans 62 pays dans le monde. Mais c'est dans le domaine de la sécurité que le score mondial est le plus faible, 36 %, avec des manques criants en termes de législation visant à lutter tant contre le harcèlement sexuel que la violence domestique ou le féminicide. Et les législations existantes sont très partielles. 150 pays disposent ainsi d'une loi interdisant le harcèlement sexuel au travail, mais à peine une quarantaine le font concernant l'espace public, autant de freins à l'accès des femmes au travail et plus largement à l'économie. Aujourd'hui, à peine la moitié des femmes font partie de la population active mondiale, contre près de 3 hommes sur 4. Ce n'est pas seulement injuste, c'est un véritable gâchis, a déploré Mme Trumbick. D'autant qu'une plus meilleure participation des femmes à l'activité économique mondiale aurait un effet particulièrement positif, comme l'a rappelé Indermitt Gill. La résorption de ces inégalités pourrait augmenter le PIB mondial de plus de 20 % et doubler le taux de croissance mondiale au cours de la prochaine décennie. C'était « L'égalité homme-femme reste un objectif lointain », regrette la Banque mondiale. Un texte d'Erwan Lucas de l'agence France-Presse paru le 4 mars 2024 dans Le Devoir.
Québec, ville fermière. Un texte de Sébastien Tanguay paru le 26 février 2024 dans Le Devoir. L'agriculture trouve un terreau de plus en plus fertile dans la ville de Québec. Depuis 8 ans, le nombre de fermes urbaines y a triplé au point de hisser la capitale québécoise parmi les premières de classe au milieu de métropoles comme Londres, Paris ou New York. Regard sur une ville qui joue de plus en plus son côté jardin. Discrète entre 3 immeubles résidentiels du quartier Saint-Sauveur, la ferme aux champignons grouille pourtant de vie. Destinée à régaler la population des environs, pleurotes, shiitake et autres champignons poussent sans bruit à l'intérieur de ces 3 serres. Environ 95 % de ma clientèle se trouve à 5 km d'ici, explique la fermière propriétaire Iris Chabou. La très grande majorité, ce sont des restaurants. Et non des moindres, Château Frontenac, Auberge Saint-Antoine. Les pioupinots et les foliottes adipeuses qui poussent ici se retrouvent sur les tables les plus réputées de Québec. C'est d'ailleurs l'heure des récoltes lors du passage du devoir. Masque sur le nez pour se protéger des spores qui emplissent l'air à l'intérieur des serres, Iris entre pour cueillir les précieux fruits du mycélium. Nous passons 2 heures là-dedans. À la longue, ça pourrait causer des problèmes respiratoires importants. À chaque métier, c'est danger. Les affaires de la champignonnière prospèrent aussi vite que les ignes hérissons qui poussent dans ses serres. Chaque semaine, entre 100 et 200 kilos de champignons en sortent, c'est de 2 à 4 fois le volume de fabrication des débuts en 2022. Jeunes pousses en croissance. L'essor de Québec en matière d'agriculture commerciale se révèle fulgurant. La ville comptait 6 fermes urbaines en 2016, 9 en 2020 et 18 en 2024. Leur nombre a donc triplé en 8 ans et doublé depuis 2020. À titre comparatif, la ville de New York accueille seulement 4 fermes urbaines de plus sur son territoire, malgré une population 15 fois plus importante que celle de Québec. Londres et ses 9 millions de Londoniens en comptent, à l'inverse, 10 de moins. Selon une étude comparative entre 10 villes du Canada, des États-Unis et d'Europe, réalisée en 2023 par le Laboratoire sur l'agriculture urbaine. Un autre rapport publié en janvier par le même laboratoire indique que Québec trône au sommet du classement international en ce qui a trait au nombre de fermes commerciales en proportion de la population. Avec une entreprise agricole pour 30 525 habitants, la capitale devance largement Paris, Londres, Toronto ou Vancouver et se glisse tout juste devant Montréal. Et l'élan ne s'essouffle pas, loin de là. 8 autres entreprises agricoles projettent de prendre racine à Québec dans des domaines aussi variés que le maraîchage, l'aquaponie, l'apiculture ou l'élevage d'insectes. Depuis une quinzaine d'années, il y a vraiment un travail qui est fait auprès de la population pour démocratiser et faire connaître l'agriculture urbaine, observe Marie-Andrée Asselin, co-autrice du portrait de l'agriculture urbaine commerciale dans la ville de Québec en 2023, DOLAB. Pouce vert à l'hôtel de ville. Cette popularisation de l'agriculture urbaine, d'abord portée par des organismes qui travaillent dans l'agricole en zone blanche, a gagné l'hôtel de ville depuis plusieurs années. Québec affichait dès 2015 l'ambition de devenir un chef de file de l'agriculture urbaine à l'horizon 2025. L'arrivée de la pandémie en 2020 a accéléré l'adoption d'un plan d'action dans lequel la ville promettait notamment de devenir plus favorable à l'implantation d'entreprises agricoles en milieu urbain. Le maire de l'époque, Régis Labeaume, promettait de multiplier les initiatives pour que nous plongions tous les mains à la terre. Ces grains semés en 2020 portent leurs fruits 4 ans plus tard. Les entreprises agricoles se bousculent à Québec et près de la moitié de la population, 46%, dit pratiquer une forme d'agriculture urbaine à la maison ou dans l'un des 38 jardins communautaires de la ville. Québec partait pourtant de loin, explique Mélanie Simard, conseillère en développement économique à la ville. L'agriculture urbaine commerciale n'existait pas dans la réglementation. Avant mi-2022, les exploitations agricoles devaient s'établir en zone industrielle, ce qui correspondait moins à plusieurs types d'entreprises. 7 mois après son arrivée en poste, l'administration de Bruno Marchand a assoupli les règles pour permettre aux entreprises agricoles d'occuper un espace commercial. C'est ainsi qu'Au Champignon a pu prendre racine dans un local autrefois occupé par une imprimerie. Ça a vraiment été un game changer, explique Iris Chabou en s'excusant de l'anglicisme. Cette passionnée de champignons, diplômée de microbiologie et de microchimie, a longtemps cherché un local industriel adapté à ses besoins, en vain. Le manque d'espace disponible demeure un problème, mais la nouvelle réglementation a augmenté de beaucoup les possibilités. La recherche de locaux n'est pas simple, admet Mélanie Simard. L'élevage d'insectes, par exemple, ça peut créer une réticence chez certains propriétaires qui ne connaissent pas le domaine. Il y a beaucoup d'éducation à faire de ce côté-là. Québec accompagne d'ailleurs les agriculteurs dans leur quête d'un espace où planter leurs ambitions. La ville se fait aussi un devoir d'informer les entrepreneurs agricoles des différentes possibilités de financement qui s'offrent à eux. Naviguer dans les programmes municipaux, ça peut être complexe, admet Marie-Josée Asselin, conseillère responsable des dossiers d'agriculture urbaine au comité exécutif. Nous avons mis en place le service d'accompagnement Québec Culteur, pour éviter que les entrepreneurs passent à côté d'occasions juste parce qu'ils n'ont pas vu tout ce à quoi ils pourraient avoir accès. Une population au potager. Une bourse de la ville permettra bientôt à Iris Chabou d'acheter un autoclave industriel. Avec cet équipement sous la main, elle pourra convertir ses champignons en produits transformés. Nous sommes une entreprise en pleine expansion, dit-elle. La commercialisation, toutefois, demeure difficile à gérer avec un seul salarié. La mise en marché, c'est le nerf de la guerre, croit Marie-Andrée Asselin, qui n'a aucun lien de parenté avec la conseillère du même patronyme. La plupart des petits projets d'agriculture urbaine commerciaux sont portés par une ou deux personnes. L'entrepreneur doit porter plusieurs chapeaux. Il est responsable des réseaux sociaux, doit prendre en main sa propre mise en marché, son emballage, ses livraisons. J'aimerais que les citoyens s'habituent à aller chercher leurs champignons, leurs micro-pousses ou leur miel directement auprès des producteurs qui sont autour de chez eux. La ville, en encourageant sa population à plonger les mains dans la terre, espère aussi développer ce goût de la fraîcheur et du savoir-faire paysan. Quand on essaie de faire pousser des tomates chez soi et que ça ne marche pas, on découvre que c'est tout un art, croit la conseillère Marie-Josée Asselin. Après, quand on va à la rencontre du maraîcher qui fait pousser des tomates et qu'il nous explique d'où elle vient, la tomate n'a plus le même goût. Ni la même valeur. C'était Québec, ville fermière, un texte de Sébastien Tanguay, paru le 26 février 2024 dans Le Devoir.
La pilule miracle. Un texte de Dr. Alexandra S. Arbour, paru le 22 février 2024 dans Québec Science. Robert file un mauvais coton. Depuis quelques mois, il se réveille à 5 heures du matin, incapable de se rendormir. Il manque d'appétit, de concentration. Il est démotivé au travail et il s'est désisté d'un tournoi de curling alors que c'était sa passion. Il s'est surpris à pleurer au volant pendant qu'il était coincé dans un bouchon. Tous ces symptômes sont évocateurs d'une dépression. Sur les conseils insistants de ses proches, il consulte son médecin. Ce dernier lui prescrira un antidépresseur. Après 2 semaines de traitement, pouf! Il est guéri et son sourire revient. Ah! Je vous ai bien eu! Hélas, ce n'est pas ce qui s'est passé avec Robert. Après avoir essayé un premier antidépresseur à demi-dose pendant 2 semaines, il a constaté des étourdissements et des nausées. À pleine dose, il s'est mis à avoir des diarrhées et des vomissements. Il tente alors une seconde molécule d'une autre classe pharmacologique. En 48 heures, il est couvert de plaques rouges. Misère! Le revoilà chez son médecin, dépité. Est-ce qu'on va pouvoir enfin la trouver, la pilule miracle? Je ne veux pas décourager Robert, mais un médicament sans effet indésirable, ça n'existe tout simplement pas. Et ce n'est pas faute de l'avoir cherché. Le savant allemand Paul Ehrlich a décrit au début des années 1900 le médicament idéal. Il agit avec précision sur la zone atteinte sans pour autant léser les tissus sains. Certes, la science a fait du progrès depuis, mais les effets indésirables, qu'on regroupe en 3 catégories, existent toujours. Il y a ceux qui sont prévisibles et dépendants de la dose, comme les symptômes gastro-intestinaux ressentis par Robert. Il y a aussi les réactions allergiques. Après une première exposition, le corps fabrique des anticorps contre le médicament, provoquant des difficultés respiratoires ou encore de l'urticaire, les plaques rouges observées par Robert. Finalement, il y a les effets dits idiosyncrasiques, très rares, imprévisible et inexpliqué. Au-delà des effets indésirables, il peut y avoir beaucoup d'essais-erreurs à faire pour trouver le meilleur traitement pour un cas donné. Robert, en fin de compte, aura dû essayer 4 antidépresseurs avant de tomber sur celui qui allait lui rendre la bonne humeur. Que faire? D'abord, gardez patience. Un médicament met toujours un certain temps avant d'agir et les effets indésirables sont en général transitoires. Sachez toutefois que votre médecin a l'obligation de vous informer de ses effets prévisibles avant d'amorcer un traitement. Il m'apparaît aussi pertinent de rappeler que votre médecin a une obligation de moyens et non de résultats. La prescription d'un médicament qui n'atteint pas son but n'est pas une erreur médicale. Le pharmacien ou la pharmacienne du quartier est par ailleurs d'une aide inestimable. En revanche, les recherches en ligne, sur des forums de discussion ou des pages non officielles sont à proscrire. Enfin, observez-vous au quotidien, pendant toute la durée du traitement. Un médicament très bien toléré peut devenir délétère du jour au lendemain. Par exemple, si vous souffrez d'une insuffisance rénale ou si vous avez commencé à prendre un produit naturel que vous pensiez inoffensif. Gardez en tête que plus on prend de médicaments, plus il y a de risques d'effets indésirables. N'hésitez donc pas à discuter de réduction des traitements avec votre professionnel de la santé. Et si je peux me permettre, évitez à tout prix de quêter des médicaments. Je sais que vous avez lu que l'Ozempic est merveilleux pour la perte de poids, qu'un somnifère vous aiderait tellement à mieux dormir. Mais le médicament qui se rapproche le plus de la pilule miracle est probablement celui que l'on ne prend pas. C'était la pilule miracle. Un texte de Dr. Alexandra S. Arbour, paru le 22 février 2024 dans Québec Science.
Les milléniaux surpassent les baby boomers au Canada. Un texte de Léa Carrier, paru le 22 février 2024 dans La Presse. C'est la fin d'une époque. Les milléniaux sont maintenant plus nombreux au pays que les baby boomers, génération la plus importante depuis 65 ans. Et ce n'est pas uniquement parce qu'ils meurent plus, mais plutôt parce que l'immigration est principalement constituée de jeunes adultes. Les milléniaux plus nombreux. C'est ce que révèlent de nouvelles données publiées mercredi par Statistique Canada. Les milléniaux, nés entre 1981 et 1996, ont officiellement supplanté les baby boomers, nés entre 1946 et 1965, sonnant la fin d'un règne. À leur sommet, ces derniers représentaient environ 40 % de la population canadienne. Bien que leur nombre augmente, les milléniaux n'atteindront jamais un tel poids démographique. Ils devraient plafonner à son niveau actuel, soit 23 % selon les projections démographiques. Souvent qualifiée de « génération oubliée », la génération X, née entre 1966 et 1980, ne sera donc jamais la plus importante. Même la génération Z, née entre 1997 et 2012, l'a dépassée en nombre. Des immigrants principalement milléniaux. Loin devant les décès, l'immigration est la principale cause de ces changements démographiques. Plus précisément, l'arrivée récente d'un nombre record d'immigrants dont beaucoup sont des milléniaux. Entre 2022 et 2023, la population de milléniaux a augmenté de 457 354 personnes, une hausse exclusivement attribuable aux nouveaux arrivants. Cette augmentation est même plus importante que la croissance annuelle de la génération Alpha, née à partir de 2013. De façon moins importante, le nombre de baby boomers diminue d'année en année, les décès étant plus nombreux que les arrivées d'immigrants. un portrait qui diffère selon les provinces. Au Québec, les baby-boomers demeurent la génération la plus importante. On en compte actuellement 2,1 millions contre 1,8 million de milléniaux. Idem dans les provinces de l'Atlantique. C'est en Ontario et en Colombie-Britannique que les milléniaux ont surpassé les baby-boomers. En Alberta, c'était chose faite. Les baby-boomers ont perdu leur titre de génération la plus nombreuse depuis 2014. Le Nunavut présente lui aussi ses particularités. Là-bas, la génération Z est la plus nombreuse depuis 2011. Le taux de fécondité y étant plus élevé que dans le reste du Canada. Un vieillissement démographique au ralenti. Autre changement notable. Le vieillissement démographique a ralenti au pays. Entre 2022 et 2023, l'âge moyen de la population canadienne a légèrement diminué, passant de 41,7 à 41,6 ans. L'âge médian a également diminué, baissant de 40,9 à 40,6 ans au cours de la même période. Là encore, l'immigration est la principale explication. La dernière fois qu'un tel phénomène avait été observé au Canada, c'était au sommet du baby-boom. En outre, la population en âge de travailler a augmenté en l'espace d'un an malgré le départ à la retraite des baby-boomers. Plus d'hommes. Le nombre d'hommes a légèrement augmenté au Canada. Pendant de nombreuses années, le ratio oscillait entre 98,0 et 98,5 hommes pour 100 femmes. En 2023, il était de 99,6. L'une des explications serait l'augmentation du nombre de résidents non permanents au pays, avance Statistique Canada. En effet, les emplois des détenteurs de permis de travail sont traditionnellement plus souvent occupés par des hommes, par exemple dans le milieu agricole. Baby boomers, personnes nées entre 1946 et 1965. Génération X, personnes nées entre 1966 et 1980. Milléniaux, personnes nées entre 1981 et 1996. Génération Z, personnes nées entre 1997 et 2012. Génération Alpha, personnes nées depuis 2013. C'était « Les milléniaux surpassent les baby-boomers au Canada », un texte de Léa Carrier, paru le 22 février 2024 dans La Presse.